quelques semaines de cela, avant la période des fêtes de Noël, je vous avais proposé de démarrer une petite série de trois prédications sur le thème de la grâce de Dieu, avec un objectif, découvrir ou redécouvrir tout ce que ça veut dire que d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous l'avions dit, la grâce de Dieu à notre égard est vraiment immense. Ce que Dieu nous accorde, ce que Dieu nous offre au moment où nous nous approchons de lui, au moment où nous l'accueillons dans notre vie, est unique. Le contenu de sa grâce dépasse nos faibles mots. C'est pourquoi Paul parlera de la gloire de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Pierre dira que même les anges désirent plonger leur regard dans la grâce de Dieu. Aussi, puisqu'elle est si grande, nous avions dit qu'il nous fallait absolument nous y pencher en profondeur pour y découvrir tous les trésors qu'elle contient et qui nous sont offerts. Parce que approfondir notre compréhension de la grâce aura nécessairement pour conséquence d'enrichir notre vision de Dieu et donc notre relation avec lui et donc, par ricochet on pourrait dire, notre conception de la vie et même de tout notre quotidien. Et alors nous avions essayé de découper l'action de grâce de Dieu à notre égard en trois actions distinctes. La première d'entre elles est celle que nous avions approfondie la dernière fois, la justification. La justification, je vous le rappelle en deux mots, c'est une action juridique, légale, qui nous parle de notre position, de notre statut devant Dieu. La justification, c'est être déclaré juste par Dieu sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous l'avions vu, à la croix, Jésus expie nos fautes, c'est-à-dire qu'il les prend sur lui, il les paie à notre place et il nous impute sa justice, c'est-à-dire qu'il met sa justice à lui, à notre bénéfice, à nous. Il la met à notre crédit, à notre compte. Il nous fait passer, peut-être vous rappelez-vous de ce schéma, des moins au plus. Et nous nous étions vraiment émerveillés la dernière fois devant cette réalité, devant cette démonstration immuable de l'amour de Dieu à notre égard. Mais nous avions dit aussi que ce n'était pas fini et que l'œuvre de Dieu, l'action de grâce de Dieu, ne s'arrêtait pas là. Et donc nous arrivons aujourd'hui à notre deuxième mot, notre deuxième action de grâce, qui est la régénération. Et puis une prochaine fois, nous aborderons le dernier thème, qui est celui de l'adoption. Alors, la régénération, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même un mot un peu étrange, tout droit sorti, semble-t-il, des histoires de super-héros. Un mot étrange, oui, mais pourtant qui n'a rien à voir avec de la science-fiction et qui renferme une vérité tellement grande qu'on va essayer de voir plus en détail aujourd'hui. Tout d'abord, on va regarder concrètement ce qu'elle est, ce qui a lieu quand on parle de régénération. Et puis après, on regardera quels sont ses effets. Et on conclura en essayant de faire le lien entre justification et régénération. La régénération, une tentative de compréhension. Et vous remarquez déjà l'approche très modeste que je vous propose d'avoir sur ce thème. Car on va bien devoir reconnaître qu'on touche ici à des choses qui nous dépassent un peu, voire même beaucoup. On va essayer malgré tout. Et je voudrais commencer encore une fois avec une histoire. Une histoire qui va venir nous apporter un premier éclairage sur cette question-là. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Tran Tuyen. Alors je suis désolé, je n'ai pas réussi, j'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver de photo de lui. Nous sommes au cœur du XXe siècle, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et nous partons au Vietnam pour découvrir l'histoire de cet homme, un homme de tradition mi-bouddhiste, mi-confucianiste, mais comme il le précise aussitôt, pour sa part, un homme profondément athée. Personnellement, dit-il, je n'avais aucune croyance religieuse et je ne m'en cachais pas. En fait, j'étais contre toutes les religions. Elles n'étaient bonnes à mon avis que pour les paysannes illettrées et ignorantes. Il en existait une que je détestais encore plus que toutes les autres, c'était le christianisme qui, à mes yeux, était l'allié efficace et le complice sans pudeur du colonialisme, sans concession. Mais la vie amène Tran en Europe, où, en 1954, il tombe malade et il doit rester alité dans un sanatorium en Haute-Savoie. Et ce lieu va être pour lui le point de départ d'un changement. Il nous raconte. 2 années obligées de rester allongé à longueur de journée offrent largement le temps nécessaire à la réflexion et à la méditation. Les vieilles questions classiques sur lesquelles les hommes s'interrogent depuis la création du monde, d'où venons-nous, que faisons-nous ici-bas, où allons-nous, commencèrent à assaillir mon esprit. Je commençais à m'interroger sur l'existence d'un Dieu, ou plus exactement, dit-il, ma raison, poussée par je ne sais quelle intuition, pressentit qu'elle se trouvait en face de la plus grave alternative, admettre soit l'existence de Dieu, soit l'absurdité complète. Je progressais alors dans la voie de la reconnaissance de l'existence de Dieu, mais mon Dieu était encore le Dieu des philosophes et des savants, comme le disait Pascal, en l'opposant au Dieu de Jésus-Christ. En fait, j'écartais délibérément le christianisme, l'idée ne m'étant pas venue une seule fois à l'esprit qu'il pourrait me fournir la réponse dont j'avais besoin. Mais Dieu poursuit son œuvre et l'histoire continue. Tandis que j'étais plongé dans un état de confusion spirituelle, un jour, un évangéliste vint me rendre visite. L'éducation m'empêcha de les conduire. Nous nous lançâmes dans une longue discussion sur le christianisme. Quand enfin, à mon grand soulagement, il prit congé de moi, il me fit cadeau d'un Nouveau Testament. Par politesse, je l'acceptai, bien que n'ayant nulle intention de le lire. Pourtant, peu à peu, les jours passant, Tran va l'ouvrir, ce livre, puis le lire, petit à petit, et de plus en plus. Et un par un, ses préjugés vont tomber. Il va découvrir au fil des pages la personne de Jésus de Nazareth, qu'il va reconnaître comme unique dans l'histoire de l'humanité. Il va admettre la réalité du péché dans sa vie et son impossibilité à le vaincre. Et doucement, sa foi va naître, d'abord intellectuelle, en comprenant et en acceptant les vérités de l'Évangile, puis ensuite totale, en accueillant dans son cœur Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Un changement complet. Et un verset, notamment, dira-t-il, illustre bien cette nouvelle réalité qui est dans sa vie. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Le dimanche 10 mars 1957, Tran Thuyen se fait baptiser et il décide de se choisir un nouveau nom. Dorénavant, il faudra l'appeler Thai Sin, ce qui signifie « né de nouveau ». L'histoire d'une vie, parmi tant d'autres, bien sûr. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est vraiment le contraste entre le départ et la fin. Tran n'a jamais été un homme de la pire espèce. Il était poli, bien élevé, il essayait de mener sa vie comme tout le monde. Mais il a pourtant changé du tout au tout. D'un homme à l'aversion profonde pour la foi chrétienne, il s'est transformé en un disciple fervent du Christ. Et on l'a vu, le travail de préparation fut long. Mais à un moment, il change définitivement. D'ancienne créature, il en devient une nouvelle créature. Unis au Christ. Il y a, à un moment donné, un demi-tour dans sa vie, un changement de direction. Du point de vue humain, on a l'habitude d'appeler cela la conversion. Mais l'homme seul ne peut pas accomplir un tel revirement. C'est Dieu qui est à l'œuvre, chez Tran comme chez chacun d'entre nous. Et ce moment décisif, d'un point de vue divin, si on peut dire, nous l'appellerons la régénération. La régénération, qu'est-ce que c'est? C'est cet acte de Dieu en nous qui, à un moment précis, vient faire de nous une nouvelle créature. Régénérer, c'est littéralement générer une deuxième fois, c'est-à-dire naître une deuxième fois. Dit autrement, naître de nouveau, comme Jésus l'enseigne à Nicodème dans le texte qu'on a lu. Une naissance de l'esprit qui nous fait passer d'un état de mort spirituelle à un état de communion avec Dieu. Une naissance d'en haut qui vient nous lier à Dieu, qui vient nous unir à Dieu à travers Jésus-Christ. Wayne Grudem, qui est professeur de théologie et de sciences bibliques à Phoenix, en Arizona, nous propose dans son ouvrage de théologie la définition suivante. La régénération, dit-il, ou la nouvelle naissance, c'est un acte secret de Dieu par lequel il nous communique une nouvelle vie spirituelle. Les auteurs d'Aventure Formation diront aussi plus simplement, la régénération, c'est la communication de la vie divine à l'âme. Et ce n'est pas rien, quand même. C'est ce qu'a vécu Tran Tuyen quand il est devenu Taïsin. Mais c'est aussi, bien sûr, l'expérience de tous les chrétiens de tous les continents et de tous les siècles. Parce que, vous l'aurez bien compris, être chrétien et être né de nouveau, ça veut dire la même chose. On ne peut pas être chrétien sans être né de nouveau, et vice-versa. Jésus nous le dit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, cette naissance qui nous communique la vie de Dieu, est donc condition indispensable pour le salut. Mais du coup, puisqu'elle est si importante, il est primordial de bien mesurer de quoi il s'agit. Et c'est ce que je vous propose de faire en gardant cette définition à l'écran. Je voudrais notamment relever trois points qui me paraissent essentiels. La première chose, le premier point qu'il nous faut noter, c'est que la nouvelle naissance est un acte de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'accomplit. Jacques nous le dit, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Et l'apôtre Pierre poursuit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » La nouvelle naissance n'est pas de notre fait. Elle est uniquement l'œuvre de Dieu. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on peut la ranger dans cette triple action de grâce de Dieu pour nous, parce que nous n'avons rien à faire. C'est lui et seulement lui qui nous régénère. C'est lui qui nous donne cette vie spirituelle. Et s'il peut faire cela, c'est, comme pour la justification, sur la base de la résurrection du Christ. Jésus étant ressuscité, il est en mesure de nous communiquer cette nouvelle vie, sa vie, la vie d'en haut. Et nous donc, nous n'avons rien d'autre à faire si ce n'est accueillir ce don de Dieu, dans la foi, dans la confiance en Jésus. Car, comme pour la justification encore une fois, la seule part de l'homme ici, c'est la foi. C'est cet acte qui consiste à nous attacher authentiquement à ce Jésus, à qui il est et à ce qu'il a fait pour nous. Le reste, c'est Dieu qui l'accomplit. Deuxième point, un deuxième point qu'il me paraît important de relever sur la régénération est qu'elle est un acte de Dieu. Sous-entendu ici, un acte unique. Notre nouvelle naissance, comme notre naissance naturelle d'ailleurs, n'a lieu qu'une seule fois. Nous sommes morts spirituellement et l'instant d'après, par la foi et par une action divine, nous possédons une vie nouvelle de Dieu et en Dieu. Une fois pour toutes. Alors peut-être nous ne serons pas toujours capables de dire avec précision quand cet instant décisif a eu lieu. Certains le pourront et diront, moi c'était ce jour-là, à cette heure-ci précisément, à ce moment-là, tout a changé pour moi. Certains peut-être même le sentiront physiquement, mais d'autres ne sentiront rien de particulier, voire même ne pourront pas déterminer avec certitude le jour où ils sont passés de la mort à la vie. Je pense notamment à ceux qui sont nés ou qui ont grandi dans une famille chrétienne et qui peuvent dire, en toute honnêteté, qu'ils ont toujours cru. On est en face d'expériences diverses, mais qui sont là pour nous garder d'enfermer l'action de Dieu dans des stéréotypes. Et puis, de toute façon, vous en conviendrez avec moi, peu importe. Peu importe de savoir quand je suis né. La seule chose qui compte est de savoir que je suis effectivement né et qu'aujourd'hui, je vis. Le reste est plus accessoire. C.S. Lewis, dans son livre « Surpris par la joie », nous raconte son expérience, propre à lui, bien sûr. « Je sais très bien quand, » dit-il. Lui, il sait quand. Mais à peine comment le pas final fut fait. Par un matin ensoleillé, on me conduisit en voiture à Whipsnade. En partant, je ne croyais pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et en arrivant, je le croyais. Je n'avais cependant pas passé le voyage à réfléchir, ni à éprouver de profondes sensations d'ailleurs. Vous voyez, on ne sait pas toujours comment les choses se passent, mais l'important est de savoir qu'elles se sont passées. Et puis enfin, dernier point, la régénération est un acte secret de Dieu. Sous-entendu ici, mystérieux. Car de quelle façon Dieu nous communique-t-il cette nouvelle vie spirituelle ? De quelle façon nous fait-il passer en un instant de la mort à la vie ? De quelle façon implante-t-il son esprit en nous ? Eh bien, lui seul le sait. Autant nous pouvons un petit peu discerner la manière dont Dieu s'y prend pour nous justifier, avec cette notion juridique de péché transféré, de péché payé, on comprend un petit peu, autant comprendre comment Dieu fait pour nous régénérer, eh bien, c'est plus difficile. La seule chose qu'on peut affirmer avec certitude est que c'est une œuvre, bien sûr, totalement dépendante de la mort et de la résurrection du Christ, on l'a dit. Le fondement et le cœur de toutes ces actions de grâce. C'est une œuvre aussi où le Saint-Esprit a sans aucun doute un rôle primordial. Et le premier texte qu'on a lu en introduction, le texte d'Ézéchiel, nous le rappelle. C'est la venue de l'Esprit en nous qui nous donne ce cœur nouveau. Mais pour le reste, eh bien, mystère. Alors, on en restera là. Mais quand je vois les mécanismes incroyables qui se jouent au moment de notre naissance physique, mécanismes qu'on a déjà tellement de mal à comprendre, même si la science fait de beaux progrès là-dessus, je me dis que c'est peut-être normal si on est un peu dépassé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà penché en détail sur le comment de notre naissance physique. Comment Dieu fait-il pour créer à partir de rien, à partir de la rencontre de deux cellules minuscules, les êtres infiniment complexes que nous sommes ? C'est une question qui, personnellement, me fascine. C'est tellement beau, tellement profond, tellement parfait, tout ce qui se joue dans le sein maternel sans que personne ne le voie. Notre naissance physique est tellement belle. Alors, je n'ose imaginer la beauté des mécanismes de notre naissance spirituelle. J'en suis persuadé, ça doit être une création encore plus grande. Parce que la plus belle des œuvres de Dieu ne pourrait pas en être autrement. Voilà donc pour ces trois éléments. La régénération, un acte secret et mystérieux de Dieu, mais un acte qui bouleverse tout pour nous. Un acte qui bouleverse tout parce qu'il fait de nous un nouvel être, capable d'entrer en relation avec Dieu et capable de vivre dès à présent cette vie de résurrection avec le Christ. Et cela m'amène à notre deuxième point, notre deuxième partie. Car si nous ne savons pas comment Dieu s'y prend, nous savons donc en tout cas qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose va nous changer. Et nous savons aussi, c'est Jésus qui le dit, que ce changement, eh bien, il va se voir. Le vent souffle où il veut, dit Jésus, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Jésus compare l'action de l'Esprit qui nous fait renaître à celle du vent. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que le vent, nous ne le voyons pas, mais nous en ressentons toujours les effets. Eh bien, il en est de même de la naissance de l'Esprit. Nous ne la voyons pas, mais nous en ressentirons toujours les effets. C'est inévitable pour le vent et c'est inévitable pour l'Esprit. c'est à ses effets que nous reconnaissons la nouvelle naissance. Et donc, parler de la nouvelle naissance, c'est surtout parler de ses effets en nous, et c'est ce que nous voulons faire. Je le répète, c'est à ses effets que nous reconnaissons la nouvelle naissance. Et donc, la suite purement logique de ces paroles serait de dire que l'absence d'effet pourra légitimement venir remettre en cause la réalité de cette nouvelle naissance. Jésus le disait encore autrement, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mais alors, avant même d'aller plus loin, je me permets de faire ici une petite parenthèse. Parce que devant un tel discours évident, devant un tel raisonnement logique, un arbre porte des fruits et le vent souffle, il ne peut en être autrement, nous pourrions risquer d'être un peu troublés. Suivez ma pensée. On me dit que ma nouvelle naissance doit se voir, c'est-à-dire que je dois en porter les fruits. Mais comment je peux savoir si je porte assez de fruits pour dire que je suis vraiment né de nouveau? Mon quotidien me montre bien que je ne suis pas encore parfaitement cette nouvelle créature qui plairait à Dieu en tout temps. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de pensée. Personnellement, oui. Et c'est troublant de tels raisonnements. Et c'est troublant justement parce qu'ils viennent mélanger la régénération dont on parle aujourd'hui, qui est, on l'a dit, totalement le fait de Dieu et qui induit donc des effets qui nous viennent uniquement de Dieu. On la mélange avec la sanctification, qui est une œuvre où j'ai effectivement un rôle actif à jouer et qui induit l'idée d'une marche progressive et personnelle. Mais ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, c'est de la régénération que l'on parle. Et alors, peut-être pour nous aider à mieux appréhender cette différence, on pourrait dire la chose suivante. Lorsque nous avons été régénérés, l'état de notre âme a nécessairement et obligatoirement changé. Entraînant ainsi, de fait, lorsque Dieu implante sa vie en nous, un changement de l'état habituel de notre cœur, un changement de l'état général de notre volonté. Et donc, par voie de conséquence, un changement de direction générale de nos actions sur la durée. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes devenus d'ores et déjà parfaits. Cela ne veut pas dire que nous ne tombons pas encore devant tel ou tel combat. Cela ne veut pas dire que notre ancienne manière de vivre a cessé d'exister à nous et que nous sommes pleinement mûrs en tant que chrétiens. Non, cela ne veut pas dire ces choses-là. Mais par contre, cela veut dire, sans aucune ambiguïté, que notre état profond, c'est-à-dire ce qui nous caractérise, a changé et qu'il est dorénavant celui d'une nouvelle créature qui vit une nouvelle vie. L'état de notre âme a changé et donc oui, nous en verrons nécessairement les effets. Je ferme la parenthèse. Mais alors maintenant, demandons-nous quels sont-ils ces effets ? C'est ce qu'on veut regarder. Et je vous propose d'aller voir toujours dans des textes écrits par l'apôtre Jean, qui utilise beaucoup ce vocabulaire de la nouvelle naissance. Quels sont tangiblement les effets systématiques et naturels de la régénération ? Qu'est-ce que le fait de recevoir la nouvelle vie de Dieu va forcément impliquer dans ma vie sur la durée ? Et on part donc dans la première lettre de Jean, et je vous en énumère rapidement quatre. Les quatre que Jean fait ressortir en fait. Premièrement, celui qui est né de nouveau croit en la vérité concernant la personne et l'œuvre de Jésus. Celui qui croit que Jésus est le Christ, dit Jean, est né de Dieu. Ou alors, dans un autre passage, voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. L'homme régénéré est celui qui confesse que Jésus est ce que la Bible dit qu'il est et que Jésus a fait ce que la Bible dit qu'il a fait. C'est une évidence, me direz-vous, mais peut-être pas tant que ça. Et l'histoire de l'Église, dès la période de Jean qui luttait quand il écrit cette lettre contre le gnosticisme, enfin certaines sectes qui prenaient un peu de la foi chrétienne, mais qui tordaient le sens. Et l'histoire de l'Église, dans toutes ces époques, nous montre qu'elle a dû lutter contre ces déviances doctrinales majeures, telles que la remise en cause du caractère divin de Jésus, ou encore la remise en cause du fait qu'il soit mort sur la croix pour nos péchés. Cette histoire nous montre bien le contraire. Et alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait être doctrinalement infaillible pour être né de nouveau. Qui le pourrait ? Et puis, notre foi n'est pas une question de doctrine, elle est une question de personne, elle s'appuie sur Jésus. Mais je dis malgré tout qu'il me semble qu'il y a des vérités fondamentales qui font que la foi chrétienne reste et demeure la foi chrétienne. Deuxièmement, celui qui est né de nouveau ne peut pas continuer à pratiquer le péché. Celui qui est né de Dieu, dit Jean, ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. On ne peut être plus limpide. Et alors, encore une fois, il est bien entendu que Jean ne veut pas dire que le chrétien ne pêche plus jamais. Ce serait tellement contraire à l'expérience. Mais par contre, il affirme que celui qui a accueilli le Christ ne peut plus vivre une vie caractérisée par le péché, c'est-à-dire une vie centrée sur lui-même, sur ses désirs et sur ses convoitises. Cela serait en totale opposition avec cette nouvelle vie qui a été implantée en nous. L'état habituel de notre âme ne peut plus être le péché et le moi au centre. Troisièmement, celui qui est né de nouveau est sur une route où l'amour occupe nécessairement une place importante. Mes chers amis, dit Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Même si personne, encore une fois, ne pourra prétendre qu'il aime parfaitement, le croyant sera forcément en route sur ce chemin, au risque sinon d'être tel un pharisien, religieux certes, mais dépourvu de la vie nouvelle. Et puis enfin, un dernier point, qui est une promesse merveilleuse que Dieu fait à tous ceux qu'il a régénérés. C'est la persévérance dans la foi. Nous savons, dit Jean, que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire le rejet de Dieu, et de son œuvre. Le texte nous enseigne que le chrétien, en ce sens, est protégé du diable, que celui-ci ne pourra pas le mettre définitivement à terre parce que le Fils de Dieu est avec lui. Dieu nous garde et nous gardera jusqu'à la fin. Quatre effets, quatre conséquences, chacune amenée à grandir, à s'étoffer, bien sûr, mais chacune présente dès notre naissance spirituelle. Car soyons-en sûrs, aussi mystérieuse et discrète soit-elle, la régénération n'en demeure pas moins bien réelle. Et ses effets se verront toujours aussi sûrs que le vent fera toujours frémir les feuilles des arbres. Dieu lui-même en est le garant. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur ce thème. Mais avant de conclure, il y a peut-être juste une chose que nous avons encore passée sous silence. C'est tout simplement... pourquoi la régénération ? On a bien vu qu'elle était indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu, mais après tout, on pourrait se demander pourquoi. Surtout après ce qu'on a dit la dernière fois sur la justification. Si Dieu nous a déjà déclarés justes sur la base du sacrifice de Jésus, pourquoi venir rajouter cela en plus ? Et je ressortirai rapidement deux raisons. La première, c'est que, je dois le reconnaître, on a peut-être pris la question légèrement à l'envers. Et sans doute serait-il plus juste de dire que c'est parce que Dieu nous a régénérés, c'est-à-dire parce qu'il nous a unis à la vie du Christ, dans sa mort et sa résurrection, dans notre ancienne nature crucifiée avec lui et dans notre nouvelle nature ressuscitée avec lui, c'est parce qu'il fait cela qu'il peut ensuite nous déclarer justes en nous attribuant les mérites du Christ. La nouvelle naissance ainsi vue serait donc en fait, chronologiquement entre guillemets bien sûr, je ne sais pas s'il y a une chronologie, mais première par rapport à la justification. Et puis aussi, justification et régénération restent intimement liées et indissociables, tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu cohérent. Et que ce qu'il a déclaré juridiquement et légalement, il vient aussi l'accomplir dans notre vie. Et pour cela, il doit venir implanter cette nouvelle vie en nous. Seule assurance, seule possibilité pour nous de commencer à marcher dans la bonne direction. Ainsi, Dieu nous entoure de toutes parts. Il nous justifie et il vient vivre en nous. Je le redis, décidément, que Dieu est grand, que l'œuvre de Dieu est grande. Et on pourrait même dire, stop, il y en a presque trop là. Mais Dieu ne s'arrête pas, et une troisième action de grâce, au moins aussi belle, et en fait je crois encore plus, va venir pointer le bout de son nez, c'est l'adoption. Justifié et régénéré, je suis maintenant adopté par le Dieu Tout-Puissant. Et nous verrons ça une prochaine fois, tout ce que ça implique que d'être adopté par Dieu. Mais en tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici parmi nous, certains n'ont pas saisi ce cadeau immense. Alors je prie qu'ils puissent vraiment le faire. Parce que comment pourrions-nous vouloir passer à côté de cela ? Aussi, que Dieu nous remplisse à tous de son esprit et qu'ensemble, nous proclamions encore et encore la gloire de sa grâce. Amen.